Bonjour l'équipe de la Terre au Carré, Colette de Perpignan. Vous avez diffusé en ouverture de votre émission sur les projets routiers contestés une déclaration de Monsieur Castex sur la nécessité de créer de plus en plus de routes pour de plus en plus de voitures. Cette déclaration est quand même l'illustration au summum de la déconnexion de nos politiques de l'urgence climatique. Ils ne sont préoccupés que de toujours plus et de croissance, là où il serait quand même grand temps de penser à un autre modèle. Voilà, bonne journée à tous.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Charlotte du Parc naturel régional du Perche. Suite à votre émission sur le vivant, la meilleure façon de se reconnecter au vivant peut être tout simplement de mettre les mains dans la terre et de faire du potager. C'est pourquoi je voulais vous présenter l'association Landestini pour la mise en place et l'entretien de potagers avec un programme qui s'appelle la Coupe de France du potager. Je vous invite à jeter un œil sur tout simplement Landestini, landestini.org. À très vite au potager.
Bonjour la Terre au Carré, bravo pour votre émission, Franck de Vitré. J'ai une proposition pour notre nouvelle Première Ministre Elisabeth Borne afin de lutter contre la pollution atmosphérique et contre le réchauffement climatique. Si nous décidions de créer rapidement sur tous les départements français des forêts primaires à l'image de ce qui s'est fait dans le Val-d'Oise à partir de 2019, où 230 000 arbres ont été plantés sur des terres polluées par les boues d'épandage de la ville de Paris, qu'attendons-nous, Madame Borne, pour créer 100 nouveaux poumons verts sur le territoire français? Merci.
Bonjour la Terre au Carré, une invitation de Montpellier pour ce samedi 21 à 11h, Place de l'Europe. C'est le groupe Atterrissons d'urgence, avec Alternativa et Greenpeace local, qui organise un concours d'avions verts en papier. Nous serons devant le conseil régional pour interpeller les élus et surtout les inciter à renoncer à la stratégie prévue de soutien conditionnel au transport aérien. Et cela malgré l'alerte rouge lancée par le GIEC. Venez nombreux.
Bonjour, je m'appelle Marguerite, j'habite une petite commune près du Mans. Je voulais vous dire combien j'ai été scandalisée par le fait que Tom Cruise ait été ovationné ou je sais pas quoi avec la patrouille de France. Non. Où on a la tête, je me le demande. À côté de ça, on est en train de nous raconter l'histoire, le goudron, le béton, oui, tout ça, il y en a marre. Ah là là, quelle tristesse. Moi, j'ai semé du trèfle pour que les abeilles viennent dans mon gazon. Bonne journée, la Terre au Carré. J'ai toujours plaisir à vous écouter. Bisous.
Et bisous aussi à vous, oui, Marguerite. Bisous. Voilà. Et avec un prénom pareil, on pouvait pas faire mieux pour introduire notre émission sur les fleurs. On parlera justement dans un instant des liens étroits entre les fleurs et les insectes. Pour vos messages sur le répondeur, c'est toujours le 01 56 40 45 45. Elles sont présentes sur Terre depuis 174 millions d'années, je vais y arriver. Elles ont posé un sérieux problème, on le verra, à Charles Darwin, qui les croyait beaucoup plus récentes, justement, sur notre planète. Cet après-midi, dans la Terre au Carré, on vous raconte l'histoire de l'abominable mystère des fleurs. C'est l'objet d'un documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5 et qui explique la longue et fascinante évolution des plantes à fleurs. Une histoire qui évoque la sexualité débridée des fleurs, leurs armes de séduction massive, mais aussi leur étonnante diversification et leur expansion sur Terre. Et pour en parler, nous sommes avec deux des protagonistes de ce film. En studio avec nous, François Parcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes généticien moléculaire et spécialiste du développement floral au CNRS dans l'unité physiologie cellulaire et végétale à CEA INRAE Université Grenoble-Alpes. Et en duplex de Cambridge, nous sommes avec vous Edwige Moiroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste, vous, du développement et de l'évolution moléculaire des plantes à fleurs. Vous travaillez en particulier sur les interactions entre les fleurs et les insectes, ainsi que les couleurs des fleurs. On va donc se retrouver tous dans un instant pour en parler. Et vous allez bien sûr répondre aux messages et à toutes les questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'appli France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Avec les chenilles processionnaires au programme, elles s'étendent et prolifèrent en France. Et ouch, ça peut faire un petit peu mal.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Charles de Silia, préparée par Anna Massardier, avec à la technique Ludovic Asselot.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Au commencement de la vie, il n'y avait aucune plante sur les continents.
La planète Terre a existé pendant des millions d'années sans la présence des plantes à fleurs.
Mais un beau jour, une fleur éclot, changeant l'histoire de la vie sur Terre à jamais. À quand remonte cet événement ?
Eh bien, vous le saurez ce soir en regardant l'abominable mystère des fleurs, documentaire donc signé François Tribollet, diffusé dans la case Science Grand Format de France 5 à 21h. Et on en parle donc avec les chercheurs François Parcy et Edwige Moiroux. François Parcy, on va tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi cet abominable mystère des fleurs ?
Ah, cet abominable mystère, c'est une expression que Darwin a utilisée dans une lettre à un de ses collègues, Joseph Hooker. Et en fait, il s'étonnait qu'on ait l'impression d'une évolution extrêmement rapide et pas du tout par petites touches comme ça se fait normalement. Et c'est ça qui l'a étonné, c'est-à-dire qu'une origine des plantes à fleurs d'apparence très brutale et une diversification très rapide.
Donc il avait un problème avec ça, Charles Darwin ?
Ah oui, il avait un gros problème.
C'était un vrai casse-tête pour lui parce que ça contredisait quasiment sa théorie de l'évolution ?
Ça contredisait sa théorie et certains de ses collègues qui se battaient contre sa théorie pensaient que les fleurs étaient même une preuve de l'existence de Dieu.
Oui. Ce qui n'était pas du tout, évidemment, dans l'optique de sa théorie. Et l'histoire, les techniques ont permis de répondre justement à cet abominable mystère, alors, quelques décennies, quelques siècles plus tard.
Et c'est vrai que, voilà, cet abominable mystère, c'est un gros mystère et on le grignote petit à petit.
Ouais.
On ne l'a pas résolu complètement, mais il a quand même perdu de son côté abominable.
Qu'est-ce qui reste comme mystère, alors, à découvrir autour des fleurs ?
Par exemple, Où cette apparition s'est produite, on n'en a aucune idée.
Ouais.
Et il reste des tas de jalons qu'on n'a pas encore découverts. Donc il y a vraiment de quoi faire.
Et le saura-t-on un jour
J'espère.
C'est vrai
Avec des nouveaux fossiles, pourquoi pas.
Ouais. Edwige Moiroux, dans le film, on voit Sarah Darwin. Alors c'est une botaniste qui est donc l'arrière-arrière-petite-fille de Charles Darwin. Est-ce que vous la connaissez personnellement ou pas ?
Non, pas du tout. En fait, c'est une un des beaux côtés du film, c'est que je l'ai rencontré en fait à l'occasion du tournage.
Ouais.
Oui.
Donc ça veut dire que ce mystère, il est un petit peu moins abominable aujourd'hui et que votre génération, effectivement, apporte pas mal de réponses à toutes ces questions. Est-ce que Darwin et Edwige Moiroux avaient les moyens de dater justement les fossiles précisément à l'époque au 19e ?
Il y avait des moyens de datation. Le problème est qui, en fait, ces moyens de datation, d'une certaine façon, c'est toujours les mêmes qui sont utilisés. Il y a des améliorations, bien sûr. Ce n'était pas tant une question de problème de datation de fossiles, c'était plutôt un problème que d'absence de fossiles, en fait. Le problème des plantes à fleurs, c'est que ce sont des organismes. Hein, il n'y a pas d'os chez les plantes à fleurs. Et du coup, au niveau de la fossilisation, c'est assez compliqué. Donc, les fossiles de plantes à fleurs, on n'en a pas beaucoup. Et puis, c'est facile de les rater quand on en a. Donc, c'était surtout ça. Le problème du chaînon manquant.
François Parcy, comment on les date alors ces fossiles aujourd'hui et quelle est donc la plante à fleurs, on va revenir sur toute l'histoire, mais la plus ancienne admise aujourd'hui par la communauté scientifique
hein. On les date comme on date tout ce qu'on trouve dans des couches sédimentaires. Hein. Il y a différentes techniques pour les dater. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Et effectivement, comme le disait Edwige, ce n'est pas du tout un problème de datation. Hein. C'est vraiment un problème de disponibilité des fossiles. Et récemment, il y a 3 ans, il y a 1 an, il y a des nouveaux fossiles qui ont été découverts.
Hein. Ouais.
Il y a 3 ans, il y a eu Nanjinganthus dendrostyla, découvert en Chine. Et plus récemment, Florigerminis jurassica. Et alors celle-là, elle repousse les limites de l'origine des plantes à fleurs, puisque respectivement, c'est 174 millions d'années
ouais.
ou 164 millions d'années. Donc on n'est plus dans le Crétacé, comme on le pensait. On a basculé dans le Jurassique.
Ouais.
Et peut-être on va basculer encore plus en arrière.
Oui, ce qui change un peu l'histoire quand même, finalement, hein, par rapport aux dinosaures déjà. Hein, parce que certains dinosaures ont connu l'histoire des fleurs, d'autres pas. Donc il faut préciser effectivement les choses. Toute la communauté est d'accord là-dessus ou ça fait pas consensus encore ces dates ?
Alors, Nanjinganthus dendrostyla, c'est clair qu'il est daté de 174 millions d'années en arrière. Par contre, est-ce que c'est vraiment une plante à fleurs ou est-ce que c'est un gymnosperme qui commence à ressembler ? On ne sait pas. Florigerminis, c'est plus récent, mais j'ai pas encore vu de gens dire que c'était pas une plante à fleurs. Voilà, donc apparemment, ça tient la route. Et c'est vrai, si je peux rebondir, que ça résout une partie du mystère parce que Darwin avait l'impression d'une apparition brutale.
C'est ça.
Mais si en fait, elles sont pas apparues il y a 120 millions d'années, mais il y a 170, voire même, comme certains le disent, 250, elles ont eu le temps d'évoluer. Et il n'y a plus rien de brutal, et il y a beaucoup moins d'abominables mystères.
Vous résumez le film de ce soir, finalement, parce que c'est ça qui est montré, hein, au fond, tout au long.
On va quand même le regarder.
Tout au long, évidemment, parce qu'il y a des très belles images.
Edwige Moiroux, vous disiez donc effectivement que c'était par essence difficile d'avoir des fossiles de fleurs puisqu'il n'y a pas d'eau, d'os. Elles sont retrouvées, en fait, dans quelle matière ? Comment elles ont pu être fossilisées, en fait, celles qu'on retrouve ?
Souvent, le problème, les fossiles végétaux, ce sont souvent des tissus du bois, en fait. Et les fleurs, par définition, sont des tissus assez fragiles. Alors, il y a plusieurs exemples de fleurs qui ont été préservées dans l'ambre, par exemple dans les résines des arbres. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver. Ou alors, c'est pas le tissu floral lui-même, mais c'est une empreinte, un peu comme si vous prenez de l'argile et que vous pressez une fleur et vous obtenez une empreinte, et c'est cette empreinte qui peut être préservée.
Et alors,
dans certains cas, juste pour ajouter, dans certains cas aussi, on a pu trouver dans des sédiments des tout petits fossiles de plantes à fleurs. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on a peut-être raté pendant un long moment les plus vieux exemples de plantes à fleurs, c'est que les premières plantes à fleurs étaient peut-être très petites. Et du coup, on a des exemples de minéralisation de fleurs entières, donc elles deviennent un peu similaires à de la pierre. Mais ces fossiles étaient très petits, donc c'était facile de les rater.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça pouvait ressembler à quoi? Alors, les toutes premières fleurs sur Terre, vous qui vous intéressez en plus aux couleurs, est-ce qu'on pourrait en avoir une idée? Ou alors là, franchement, c'est pas possible.
Alors, les couleurs, c'est très difficile, parce que les pigments qui font la plupart des couleurs des plantes à fleurs sont des molécules qui ne se préservent pas très longtemps. Donc, c'est un peu comme la couleur des dinosaures. On a souvent besoin d'imaginer. Par contre, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a aussi une autre façon de faire de la couleur en utilisant des structures et pas des moyens chimiques, donc des moyens physiques. Et une fois encore, c'est intéressant parce que les dinosaures aussi utilisaient certainement cette astuce. Et du coup, ces structures, elles se préservent bien mieux. Donc l'aspect structurel des couleurs peut nous permettre des fois d'imaginer quelles pourraient être les couleurs des plantes à fleurs. Après, c'est vrai que notre imagination, souvent, en fait, a été envoyée peut-être dans la mauvaise direction, parce que les exemples de plantes à fleurs qu'on a aujourd'hui, qui correspondraient à des espèces qui ont émergé il y a très longtemps, par exemple, les nénuphars sont un exemple commun, ont tendance à être des grosses fleurs. Donc, pendant longtemps, les gens ont pensé que les premières plantes à fleurs étaient très grosses. Et en fait, c'était peut-être pas du tout le cas.
François Parcy, donc c'était plutôt assez rudimentaire, ces toutes premières fleurs, il y a 170 millions d'années. Allez, on va couper la poire en deux.
On les imagine assez rudimentaires, effectivement. Et comme le disait Edwige, il y a des caractéristiques qu'on ne pourra jamais établir. Hein. Ceci dit, il y a des gens, en fait, qui, en se basant sur l'arbre du vivant, essaient de deviner le portrait robot de la première fleur qui est lancée. Être commun de toutes les plantes qui existent aujourd'hui. Et donc, ils ont comme ça des hypothèses sur la nature des organes, le fait qu'il y avait déjà, par exemple, les organes mâles, les étamines, et l'organe femelle, le pistil, rassemblés sur une même structure. Oui. Donc, on peut quand même, en observant ce qui nous reste aujourd'hui et les fossiles, on peut se faire comme ça une idée de à quoi pouvait ressembler cette plante à fleurs.
Mais en schématisant, et pour faire un petit clin d'œil à notre auditrice de tout à l'heure, on ne peut pas se dire que ça ressemblait grosso modo à une marguerite.
Absolument pas. Alors, il est peu probable que ça ressemble à une marguerite. Ça doit être une fleur forcément plus simple, mais on peut pas savoir. Et même le chercheur Hervé Sauquet, le chercheur français qui avait publié il y a quelques années cet article sur le portrait robot, il avait voulu montrer quelque chose. Il avait dessiné ou il avait fait dessiner des pétales un peu comme des magnolidés, des gros pétales blancs. Et ça lui a été beaucoup reproché parce qu'on n'en a aucune idée. Ouais. Il fallait bien montrer quelque chose, quoi.
Ouais. À quoi ça ressemblait le monde avant les plantes à fleurs? Ça devait être super triste, non, finalement?
Oh, mais c'était quand même très vert, hein, parce que entre les mousses et surtout les fougères et la grande famille des gymnospermes, donc qui contient les conifères, mais aussi le ginkgo, les cycasses, etc., c'était des familles très très riches. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, avant les plantes à fleurs, on avait beaucoup plus d'espèces de gymnospermes qu'il n'en reste aujourd'hui, en fait. Hein. Ça s'est divisé au moins par 10. Donc il y avait tout de même une diversité. Maintenant, pour ce qui concerne les couleurs...
C'est ça, ça devait manquer de couleurs, quand même.
Ça devait manquer. Ouais. Oui.
Allez, on va voir ce qui s'est passé, justement, pour que les plantes à fleurs émerge dans le monde végétal. Vous allez nous dire ça dans un instant et vous répondrez bien sûr au message des auditeurs de la Terre au Carré.
Thank you.
les chants de Maldoror. C'était la voix de Léonie Pernet.
La Terre au carré. Sur France Inter. Darwin a dit que toutes les créatures vivantes partageaient une origine commune. Alors, d'où viennent les plantes à fleurs?
Eh bien, vous en saurez plus donc tout à l'heure avec ce film « L'abominable mystère des fleurs », 21h sur France 5. Alors, les plantes à fleurs François Parsi, ce sont celles qu'on appelle les angiospermes, c'est ça?
Les angiospermes, effectivement. Ouais. Ça vient du fait que leur ovule est enfermé dans un compartiment, les ovules dans une boîte, ça veut dire ça, angiosperme, à l'inverse des gymnospermes, où là, l'ovule est nu sur les écailles, comme les écailles d'une pomme de pin.
On en parle avec vous et avec Edwige Moiroux, donc qui est en duplex de Cambridge. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs là-bas, Edwige Moiroux, exactement?
Eh ben, je passe beaucoup de temps à regarder les plantes à fleurs et à essayer de comprendre, de percer certains de leurs mystères.
Ouais. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé, justement, le scénario qui a permis l'émergence de la toute première plante à fleurs, donc il y a 170 millions d'années, Edwige Moiroux? Si on retrace le scénario, qu'est-ce qu'il a fallu comme élément pour provoquer l'émergence de cette première fleur?
Alors, plusieurs choses. Une des premières choses, c'est de regrouper les organes mâles et femelles sur une même structure. Et ça, c'est vraiment un des traits de génie des plantes à fleurs. C'est de rapprocher ces deux structures reproductrices pour créer une seule structure, une structure nouvelle.
Ouais.
Et puis, donc ça, c'est probablement une des premières choses qui s'est produite parce que les gymnospermes dont François parlait ont des organes mâles et femelles, mais ils ont tendance à être séparés. Hein, une pomme de pin, c'est des organes femelles. Et le pollen est produit sur des petits cônes qui deviennent jaunes sur les conifères.
Donc il y a un rapprochement.
Donc, rapprocher les deux, ouais, c'est une bonne idée parce que ça permet, au cas où il n'y a pas de pollen qui vienne d'une plante plus éloignée, la fleur peut faire sa pollinisation elle-même. Donc c'est en fait une méthode très efficace d'être sûr que la pollinisation et que la génération suivante, les graines seront produites et ça permet de maintenir les espèces.
Mais était-ce suffisant pour autant?
Non, non, non. Alors ça c'est la première étape. Après, évidemment, il y a beaucoup de décorations qui ont été ajoutées. Ma décoration favorite, c'est les pétales, évidemment. Mmh. Et ces pétales, c'est ce qui rend les fleurs particulièrement attrayantes et visibles. Et puis, c'est pas simplement un côté esthétique, mais c'est vrai que les pétales qui forment la corolle correspondent en fait à un outil de communication extraordinaire qui permet aux fleurs de communiquer avec les insectes, de manipuler leur comportement. Et ça leur permet d'être vraiment très sélectives et justement de s'assurer que leur reproduction, en attirant des transporteurs de pollen, va pouvoir réussir.
Alors justement, vous parlez d'insectes, Edwige Moiroux. Mm-hmm. Bruno, sur franceinter.fr, nous pose cette question. Si les insectes sont inféodés aux fleurs, la datation des insectes peut-elle donner l'âge des fleurs dont ils dépendent? Alors François Parsi, vous pensez quoi de cette question?
Non, mais c'est une très bonne question.
Qui, hein, de la fleur ou de l'insecte, hein, c'est, oui, pas la poule et l'œuf, là, mais...
Et en fait, ça pose des grands problèmes, parce que au fur et à mesure qu'on recule la date d'origine des fleurs, en fait, les questions sur les insectes se reposent. Je me souviens, il y a quelques années, on disait, ah non, non, les insectes étaient là bien avant, parce qu'il y en avait, il y avait une catégorie d'insectes à 100 millions de, à 150 millions d'années. Mais aujourd'hui, on a reculé les fleurs. Et donc, on aurait vraiment besoin d'une datation précise de l'origine des fleurs, pour pouvoir savoir qui était là le premier.
Mais il y a vraiment une concomitance entre l'arrivée des insectes et celle des plantes à fleurs, ou pas?
Il y a tant d'incertitudes sur l'arrivée des fleurs qu'en fait, on ne peut pas le dire.
Ça passionne les auditeurs. En tout cas, il n'y a que des questions là-dessus. Thierry, lui, du coup, par rapport aux insectes, voudrait savoir comment se sont dispersées les fleurs. Si par hasard, ça n'est pas corrélé au tout départ, comment alors les fleurs ont pu se disperser? Est-ce qu'on a une idée?
Les plantes à fleurs, il ne faut pas oublier qu'elles ont des graines. Hein, et le mode principal de dispersion, donc des gymnospermes et des angiospermes, de toutes les plantes à graines, c'est quand même la graine. Donc il n'y a pas de doute que les insectes ont sans doute pas joué un grand rôle dans la dispersion des fleurs, mais ça a dû se faire d'une autre manière. Ça peut se faire par le vent, ça peut se faire par l'eau. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, on n'avait pas des continents séparés. Hein. Si on remonte 150 millions d'années en arrière, on a la Pangée. Et donc on a des continents qui sont beaucoup plus reliés les uns aux autres.
Edwige Moiroux, sans les pétales, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que les insectes seraient venus justement pour polliniser, par exemple, les fleurs ou pas?
Alors oui, certainement, parce qu'on a des évidences, par exemple, des indications que les gymnospermes, certains gymnospermes, en fait, attirent les insectes. Il y a, par exemple, des fourmis ou d'autres insectes qui peuvent être attirés par des récompenses, des gouttes d'eau sucrées, etc. Donc les insectes interagissent avec les plantes avant la fleur. Par contre, pour revenir à la question précédente, c'est vrai que c'est pas tant, une fois encore, l'origine qui est importante et quand est-ce que les fleurs arrivent ou quand est-ce que les insectes arrivent, mais on voit très bien que dans l'histoire évolutive des plantes à fleurs, à chaque fois qu'il y a des espèces d'explosion de diversité où d'un seul coup le nombre d'espèces semble augmenter, on voit cette espèce d'explosion miroir dans l'arbre évolutif des insectes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une histoire couplée entre les deux. C'est ça qui est vraiment intéressant. En fait.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que sans les insectes, les fleurs n'auraient jamais pu exister, mais que le contraire n'est pas forcément vrai, Edwige Moirou?
C'est difficile à répondre. C'est simplement que ces deux groupes d'organismes vivants qui ne sont pas du tout rapprochés d'un point de vue évolutif,
oui,
influencent tellement leur évolution respective que c'est très difficile de les séparer, en fait.
François Marou. C'est un bel exemple de symbiose, finalement.
C'est un bel exemple de symbiose et c'est un bel exemple de coévolution. Alors, pour tenter de spéculer un peu sur ce qui se serait passé sans les insectes, on peut imaginer que le mode de reproduction basé sur l'auto-fécondation, c'est ce qu'évoquait Edwige, il y a des plantes qui sont capables de se féconder elles-mêmes. On peut imaginer que sans les insectes, ce mode de fécondation aurait été favorisé et que les plantes à fleurs auraient quand même pu connaître un succès, peut-être d'une ampleur moindre, mais basé sur des mécanismes un peu différents. Et aujourd'hui, il existe des plantes à fleurs, comme le blé, par exemple, qui n'ont pas besoin d'insectes pour être fécondées. Il en existe aussi, si elles n'ont pas été fécondées par l'insecte, alors il y a une sorte de mécanisme de secours qui fait qu'elles sont finalement capables de s'auto-féconder. Mmh. Donc voilà, il y a tellement de richesse dans la diversité des plantes à fleurs que je suis sûr qu'elles s'en seraient sorties.
Alors parmi les expériences qu'on voit justement dans le documentaire qui sont menées autour des fleurs, celles qui concernent le son des insectes et son impact justement sur la fabrication du nectar, c'est assez fascinant et on va écouter un extrait du film avec la chercheuse Lilar Adani de l'université de Tel Aviv.
Les premiers sons que Lilar teste, comme le bruit d'une chauve-souris, ne donnent rien. Aucune modification du nectar. Mais quand elle diffuse un son d'abeille bouclé à l'ordinateur,
je joue le son avec un haut-parleur imitant le mouvement des abeilles autour du buisson.
La fleur réagit. 20% de sucre en plus. Cette augmentation est donc la preuve que ces fleurs perçoivent bien le son de leurs pollinisateurs. Elles produisent un nectar plus sucré pour recevoir leurs hôtes comme il se doit.
François Parsi, alors ça c'est assez fascinant, mais alors si on est d'accord avec ça, où sont les oreilles finalement des fleurs ?
Bah oui, comment elles peuvent entendre ? C'est quand même fou.
Alors en fait, ça, les chercheurs qui ont fait cette étude-là, qui se rendent compte que en fait les vibrations augmentent le taux de sucre dans le nectar, ils ont aussi compris que c'était les pétales en fait qui vibraient et qu'en fait il y avait des fréquences qui faisaient vibrer les pétales et sans doute c'était ça qui était transmis. Donc ça, c'est quand même un champ thématique extrêmement neuf, hein, c'est un domaine naissant. Moi, dans mon livre que j'ai écrit il y a maintenant 3 ans,
L'histoire
secrète des fleurs, ouais, exactement. Je l'ai quand même traité avec entre guillemets beaucoup de pincettes parce que autant il n'y a pas de doute hein, que cette quantité de sucre dans le nectar elle augmente, autant le rôle que ça a pu jouer dans l'évolution, est-ce que vraiment il y a un signal, est-ce que tout ça, en fait, le rôle dans l'évolution et le rôle fonctionnel de ce phénomène-là, il est assez mal compris. Et cet article, pour dire, il a été publié, mais il a aussi été énormément commenté. Et donc, très honnêtement, je pense qu'il faudra attendre quand même que ce genre de choses soit étayé par plus de recherches, ouais, plus d'articles, avant d'en faire une loi générale, de dire oui, les fleurs ont des oreilles et les insectes parlent aux fleurs.
Ouais, Edwige Moirou, on voit d'ailleurs les scientifiques dans le documentaire qui prennent beaucoup de précautions, hein, en disant on a répété quand même l'expérience plusieurs fois, on a observé la même chose, mais on sent qu'on y va un petit peu sur des œufs quand même. Hein.
Oui, c'est la base de la science. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel aucun scientifique a envie de se séparer de ce principe-là. Et c'est toujours une difficulté entre l'excitation de la découverte. Et à chaque fois qu'on découvre quelque chose de neuf, le plus surprenant c'est, le plus de chance,
ouais,
on a de se tromper en fait. Donc c'est important de prendre du temps. Et puis ouais, c'est aussi, c'est la beauté de ce mystère de Darwin, c'est qu'en explorant un mystère, en fait, on se rend compte qu'il y a des millions de mystères à éclairer.
Edwige Moirou, parce qu'on a beaucoup de questions de la part des auditeurs sur les insectes, j'aimerais bien revenir encore un petit peu. Est-ce que les insectes sont spécialisés dans certaines fleurs ou est-ce qu'au contraire ils sont assez généralistes et ils peuvent aller butiner partout ?
Eh ben en fait, c'est un système magnifique parce qu'on trouve de tout. On trouve des insectes qui sont extrêmement spécialisés, c'est-à-dire que si l'espèce de plante à fleurs qui est l'espèce de plante à fleurs favorite disparaît, la survie de ces insectes est menacée elle-même directement.
Qui, par exemple ?
Et puis on a des insectes qui sont bien plus généralistes, qui eux ne sont pas très compliqués et ils sont parfaitement contents de visiter beaucoup de.
Mais lesquels alors ? Pardon, il nous faut des exemples là dans les deux catégories.
La vanille de Madagascar.
Alors pourquoi ?
Parce que les insectes qui pollinisent... Maintenant, on doit polliniser la vanille à la main, hein, parce que l'insecte dont je ne connais pas le nom, en fait, c'est un insecte qui est maintenant beaucoup trop rare et qui n'arrive plus à polliniser tous les champs, tous les plants de vanille.
Ouais. Un autre exemple, Edwige Moirou ?
Ben, par exemple, les bourdons ou les abeilles sont des insectes qui sont assez généralistes. Alors après, c'est toujours pareil. À l'échelle de l'espèce, l'espèce est assez généraliste, peut visiter beaucoup d'espèces différentes. Par contre, si on suit des individus, donc une abeille en particulier, on se rend compte que chaque individu, en fait, acquiert des préférences au cours de sa vie, se met à visiter certaines fleurs. Et c'est pas qu'ils ne peuvent pas reconnaître les autres formes florales, mais il y a une décision qui est prise qu'une espèce de fleur est une espèce préférée, c'est celle-là qui peut être visitée. Et ça varie d'un individu à l'autre.
Et puis, Edwige Marou,
il y a des personnalités différentes chez les insectes.
Oui, et puis il y a des fleurs qui posent certains problèmes aussi, parce qu'elles sont compliquées justement à butiner. Donc il faut vraiment des insectes qui se spécialisent dans ces fleurs très difficiles. C'est ça.
Exactement, c'est une gamme de connaissances et de techniques d'ouverture de fleurs. Beaucoup d'insectes ont besoin d'apprendre, et puis c'est pas tout le monde n'y arrive pas. Il y a des fleurs qui ont besoin d'une certaine taille. Par exemple, les fleurs de mufflier, elles sont très souvent pollinisées par des bourdons qui sont assez gros pour des insectes qui sont suffisamment lourds pour ouvrir la fleur. Les abeilles à miel ont plus de difficultés à ouvrir les fleurs de mufflier.
François Parcy,
il y a aussi des fleurs comme chez certains pétunias où les pétales sont fusionnés et font un tube et le nectar se trouve tout au fond.
C'est ça.
Et donc si on n'est pas un papillon de nuit par exemple avec une trompe très longue, on n'arrivera jamais à butiner ce nectar. Donc il y a des correspondances entre la forme de la fleur et la forme des organes de l'insecte.
Donc parfois il faut être assez spécialisé. Allez, on revient sur cet abominable mystère des fleurs avec vous dans un instant et plein de questions de la part des auditeurs.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Crony, on passe au vert à 14h32.
Et je vais encore faire bondir notre directeur de la musique à France Inter avec un nouvel indice sonore ultra lourd pour vous faire deviner le sujet du jour.
Je sais ce que c'est.
Attention, c'est parti.
Voilà.
À la queue leu-leu, oui, à la queue leu-leu, comme les chenilles processionnaires. Elles ne se déplacent qu'en file indienne, une femelle toujours en tête au passage, entre leur nid dans les arbres et le sol où elles vont aller s'enfouir pour se transformer en papillon. Et les convois peuvent être impressionnants, en témoigne le spécialiste des chenilles processionnaires, Jérôme Rousselet, chercheur en entomologie forestière et biologie des populations à INRAE.
J'ai déjà vu un parking de supermarché quasiment entièrement recouvert. C'était au milieu de la forêt, entouré par les pins, une zone ouverte, elles adorent ça. C'était du goudron bien chaud et c'était des quantités mais phénoménales avec des processions qui faisaient, je sais pas, 20-30 mètres chacune. Quoi. C'était des trucs incroyables. Bon, je l'ai pas vu beaucoup quand même, je l'ai vu une fois.
D'ailleurs, le nom scientifique Tometopoea pithiocampa, ça veut dire les chenilles du pin qui provoquent l'émerveillement, tant leur procession donc est fascinante. Même comportement chez les processionnaires du chêne. Alors, pourquoi je vous parle d'elles? Eh bien, parce qu'elles font désormais partie du club très fermé des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Petit aperçu des dégâts avec Marie-Lou Mottet, elle est coordinatrice de l'Observatoire des chenilles processionnaires, créé l'an dernier.
De l'urticaire, des érythèmes, du prurite, au niveau des yeux, de la conjonctivite, des lésions de la cornée, des douleurs digestives, des vomissements. Donc voilà, tout un tas de symptômes qui sont pas très sympas.
Mais qui restent bénins dans 96% des cas. Par contre, ils peuvent être plus risqués pour les animaux de compagnie.
Souvent, ils sont assez curieux, notamment les chiens, et peuvent jouer avec. Et là, on peut avoir des symptômes très importants qui peuvent parfois provoquer la mort de l'animal. Par exemple, je pense à la nécrose de la langue qui peut arriver chez les chiens. Parfois, après, l'animal peut plus s'alimenter ou boire, et puis donc du coup, il a besoin de l'euthanasie. Quoi.
Et c'est une vraie stratégie de défense de la part de la chenille processionnaire face à tout ce qui peut en fait représenter une menace pour elle. Elle tire littéralement des cartouches.
En fait, elles ont des petites poches sur la partie dorsale du corps de la chenille avec des muscles qui peuvent tirer et libérer les poils urticants, qui eux sont très volatiles. Il n'y a pas qu'en touchant la chenille qu'on peut être exposé. Ça peut être véhiculé par l'air et souiller l'environnement autour.
Donc évidemment, pas touche. Puis donc, on s'approche pas trop non plus. La processionnaire, c'est le premier animal à faire son entrée dans le code de la santé publique, sinon il n'y a que 3 ambroisies. Mais ne pensez pas que ça veut dire qu'il faut les éradiquer, pas du tout.
Les deux espèces sont des espèces natives, les deux espèces ont leur place dans l'écosystème et c'est vraiment la prolifération qui pose problème.
Et oui, les bestioles se multiplient. La chenille processionnaire du pin était logiquement plutôt localisée dans le sud-est, mais étend son territoire vers le nord pour deux grandes raisons.
C'est vraiment le changement climatique qui est le moteur de l'expansion. Par contre, ces pins préférés ont été beaucoup plantés dans, notamment dans le nord de la France, et pin plus climat, ben, ça a donné cette expansion vers le nord.
Les malins, ils ont planté des pins noirs. Pour les processionnaires du chêne, situation différente. Elles étaient déjà présentes un petit peu partout sur le territoire, mais faut le dire quand même majoritairement dans le Grand Est. Donc la question, c'est pas tellement leur répartition, mais le fait surtout qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Et là encore, ce serait grâce à notre légendaire intelligence humaine.
Quand c'est une forêt dense, elle n'est pas hyper fan, les niveaux de population sont assez faibles. Par contre, le seul facteur qu'on connaît chez la processionnaire du chêne comme étant un facteur qui facilite le développement de ces populations, c'est l'ouverture du milieu. En fait, quand on a une forêt un peu clairsemée, un peu ouverte...
Donc, autant vous dire que le développement des zones périurbaines, ça régale la chenille processionnaire du pin et du chêne, pardon. Et voici le résultat de tout ça.
Maintenant, on a des régions où la processionnaire du pin était absente et elle devient présente, et où la processionnaire du chêne était à un niveau de population très faible, et maintenant il y a des niveaux de population abondants. Et donc quand on a les deux espèces ensemble, on n'a plus beaucoup de mois de l'année où on est tranquille.
Parce que les transhumances des processionnaires se suivent, hein. Celles du pin ont fini après plusieurs mois, mais celles du chêne commencent, donc vous devriez en apercevoir dans les semaines qui viennent. Et qui sont les winners dont parle Jérôme Rousselet?
L'Île-de-France, par exemple.
Voilà, en sachant que de toute façon, qu'aucun outil efficace et sans danger, surtout pour les autres espèces, n'existe aujourd'hui pour se débarrasser de la chenille processionnaire du chêne, là où elle pourrait poser de gros problèmes. Une cour d'école, par exemple. Conseil de Marie-Lou Mottet de l'Observatoire.
Installer des nichoirs à mésanges ou des gîtes à chauves-souris qui sont consommateurs de ces deux espèces de lépidoptères. Et donc ça permet de réguler un peu les populations, ça ne va pas les exterminer, hein, en favorisant la biodiversité prédatrice.
Voilà, les mésanges en particulier, donc elle le dit, savent se prémunir, je le précise, des poils urticants grâce à leur bec, et puis elle mange en fait l'intérieur des chenilles. Miam, miam. Sachez aussi qu'il existe un site internet chenille-risque.info, chenille-risque.info, mais vous l'aurez de toute façon compris, hein, il va falloir apprendre à vivre avec.
Et voilà, encore une bonne nouvelle de plus grâce à vous, Camille Cronier. On pourra écouter votre chronique sur la page de La Terre au Carré.
Edwige Moiroux, vous avez des chenilles processionnaires en Angleterre?
Ben oui, oui, oui.
Et ça pose un problème
malheureusement
aussi?
Non, pas encore, on est toujours un peu en retard de ce côté-là, le climat britannique a de bons côtés.
Je crois qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, elles sont considérées comme une espèce justement invasive, c'est-à-dire qu'elles viennent piquer la place d'autres espèces. Je précise encore une fois qu'en France, c'est pas du tout envahissant ou invasif, c'est juste qu'elles se multiplient et qu'elles sont dangereuses, enfin potentiellement dangereuses pour l'humain, donc ça pose problème. François Parcy, sur les dégâts potentiellement écologiques, il n'y en a pas qui sont prouvés. Est-ce qu'il y a déjà eu sur les fleurs des problèmes à cause d'insectes, en l'occurrence de chenilles, qui ont pu...
Alors j'en connais pas, mais peut-être c'est dans la phase papillon qu'il faudrait voir ça. Hein. Est-ce qu'au niveau de la pollinisation, cherchant quelque chose, ça, mais non, j'avoue que ce sujet, je sais pas du tout si ça peut faire des dégâts sur les plantes à fleurs.
Allez. Et on revient sur l'abominable mystère des fleurs dans un instant avec vous. Your Mum, c'était Wet Leg.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier. Sur France Inter.
Ils sont chercheurs et chercheuses fascinés, passionnés par les fleurs. Edwige Moiroux en duplex de Cambridge et François Parcy avec nous en studio. On parle donc de ce documentaire ce soir sur France 5 à 21h, l'abominable mystère des fleurs. Combien d'espèces de plantes dans le monde, François Parcy, pour avoir un peu...
Ça c'est une grande question parce que récemment j'ai regardé des articles et tous donnaient à l'unité près le nombre de plantes, mais alors d'un article à l'autre ça variait énormément. Ouais. Et donc on considère disons peut-être 400 ou 500 000 espèces de plantes.
D'accord.
C'est une fourchette qui est assez incertaine, mais alors les plantes à fleurs en termes d'espèces c'est 90 à 95%
de l'ensemble des espèces des plantes sur Terre. Donc c'est fou quand même.
C'est une immense majorité.
Ouais.
Et si on se place 200 millions d'années en arrière, c'était quasiment rien.
Exactement.
Donc, vraiment c'est une conquête.
Donc il y a eu une conquête, une réussite et une diversification dans tous les milieux, parce qu'on voit aussi dans le film qu'on en trouve sur les sommets, par exemple. Hein.
C'est la grande force des plantes à fleurs, c'est de conquérir toutes les niches. Elles savent s'adapter à des terrains extrêmement secs, à des terrains en altitude. Effectivement, dans le film, on voit ce moment où Sébastien Lavergne enlève la neige sous une fleur. C'est assez extraordinaire.
Hein. Et est-ce qu'elles vont en se développant là, depuis des millions d'années, ou est-ce que, comme les insectes, par exemple, il y en a de moins en moins? Est-ce qu'il y a une disparition des plantes à fleurs?
Si on regarde sur une grande échelle, elles vont en se développant. Maintenant, si vous me posez la question sur les 50 dernières années, c'est peut-être très différent. Et je suis pas sûr qu'on mesure encore le taux de disparition des plantes qui peut-être coïncide avec le taux de disparition des insectes.
Oui, justement, j'allais vous demander, Edwige Moiroux, vous pourrez peut-être compléter, si les insectes, donc on le sait, sont en train de décliner, est-ce que ça peut avoir un impact sur les fleurs?
Ah ben oui, ça, on s'en rend compte principalement en regardant les espèces agricoles, hein, les espèces cultivées, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rendements qui ont commencé à diminuer, même en Europe, parce que simplement on arrive à court d'insectes pollinisateurs. Donc après, c'est difficile de voir à quel point ça s'applique aussi à l'échelle des plantes sauvages, mais c'est sûr que de ce côté-là aussi, le fait que des espèces, on perd de la diversité des insectes, ça a nécessairement un impact sur les plantes à fleurs. Alors dans certains cas, elles arrivent à s'adapter, elles trouvent d'autres stratégies, mais pas toujours. Et en tout cas, les changements auxquels on s'intéresse à l'heure actuelle, c'est des changements qui sont très très rapides, qui n'ont rien à voir avec les changements à l'échelle évolutive auxquels les plantes à fleurs ont été expertes en termes d'adaptation. Donc la grande question, c'est est-ce qu'elles vont arriver à s'adapter suffisamment rapidement.
Et François Parcy, les fleurs sont très sensibles au changement de température, justement?
Elles sont très sensibles à la fois pour leur croissance et pour le moment de la floraison. Et on le sait tous, hein, quand il y a des chaleurs précoces, on a les arbres fruitiers qui commencent à débourrer, et puis ensuite un petit coup de gel, et puis tout est perdu. Et donc en fait, la température, et c'est très étudié en ce moment, hein, comment les plantes perçoivent la température et comment elles y répondent. Et la température, à la fois le passage du froid, mais à la fois la température ambiante avec la chaleur, ça a un effet énorme sur la physiologie et sur la reproduction des plantes.
Edwige Moiroux, mais comment on explique le succès quand même évolutif, là, pour y revenir un petit peu, parce qu'on voit justement que ça a colonisé l'ensemble de la planète, que maintenant c'est 90% voire plus de toutes les plantes de notre Terre. Comment on l'explique ça?
En fait, les plantes à fleurs, c'est un complexe d'innovations. C'est vrai que la fleur, c'est une des grandes innovations et une des choses qui certainement les a beaucoup aidées, mais pas seulement. Par exemple, il y a beaucoup de plantes à fleurs qui poussent très très rapidement. Ce sont des plantes herbacées, donc il y a très peu de bois. Et ça leur permet de s'étaler, de conquérir des territoires bien plus rapidement. Si on compare avec, par exemple, un ginkgo ou un conifère, qui prend 20-25 ans avant d'arriver à maturité, c'est sûr que de ce côté-là, c'est pas forcément une innovation qui est liée à la fleur elle-même, c'est simplement au style de vie. Et ça leur a permis d'être en fait très très efficace. La graine aussi. C'est la graine, le fruit, la dissémination en enfermant, comme François expliquait au début, hein, les angiospermes, ça veut dire que les ovules sont dans un compartiment. Ce compartiment, c'est ce qui devient le fruit. Et ça rend du coup la dissémination des graines bien plus efficace, parce que d'un seul coup, surtout si les fruits sont charnus, c'est bien plus attirant pour les animaux, une fois encore, et ça permet d'expliquer comment des espèces ont pu s'étaler sur des grandes distances très rapidement.
Et François Parcy, les graines sont plus résistantes que les dinosaures. Hein. Si on voit les grandes crises écologiques justement de notre planète, les graines sont restées.
Les graines ont très bien résisté. Et puis il y a cette étude dans l'emplacement actuel de la Colombie qui montre qu'après le météorite, 6 millions d'années après, en fait, les plantes à fleurs étaient revenues, et elles étaient revenues en force. Et c'est là où en fait elles ont profité de ce chaos pour s'imposer au milieu de la forêt amazonienne, alors qu'elles n'étaient pas du tout majoritaires avant avant le météorite.
Bravo les fleurs.
Et Maline. Dominique sur franceinter.fr nous demande comment on explique que certaines fleurs puissent, ont réussi même à imiter l'aspect des insectes qui les pollinisent. Il donne l'exemple d'Ophrys insectifera, François Parcy.
Alors effectivement, les orchidées, hein, qui sont les championnes de la séduction, elles ont des pétales de nature différente. Elles ont un gros pétale qui est souvent différent des autres, qu'on appelle le labellum. Et en fait, il existe certaines espèces chez lesquelles ce pétale ressemble à un insecte. Alors comment elles ont réussi? Eh bien, c'est simplement que tout ce qui confère un avantage évolutif à la plante va être maintenu. Et donc, dès le moment où on a un pétale qui commence à ressembler à un insecte, on a des mâles, en fait, qui croient voir une femelle, qui essaient de copuler avec cette femelle. Ça s'appelle la pseudo-copulation. Il y a même sur la fleur un appendice qui ressemble à l'appendice génital des femelles et sur laquelle le mâle se positionne. Et il se positionne tellement précisément qu'il va charger sur des sortes d'antennes, il va charger le pollen. Parce qu'en fait, il se met dans une position précise et sa tête va tremper dans les loges à pollen.
Donc c'est quelque chose ultra mal. Encore une fois.
Alors, je n'utiliserai pas le mot maligne qui se réfère un peu à l'intelligence, mais c'est une sophistication des mécanismes de l'évolution qui sont absolument extraordinaires.
Edwige Marou, il y a une image évidemment très impressionnante, celle du désert sud-africain avec l'explosion de ces fleurs à l'occasion du super bloom. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est un moment très particulier de l'année et tout d'un coup, après le désert, on voit vraiment quasiment une prairie, un champ avec des fleurs extraordinaires. Comment on explique cette explosion-là?
Bah, en fait, c'est vraiment une des qualités principales des plantes à fleurs, c'est cette capacité à tirer grand parti des différentes conditions. Donc à partir d'un moment où les conditions sont favorables, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre et vraiment c'est l'idée de maximiser les chances de reproduction. Donc c'est sûr que si tout le monde fleurit en même temps, bah quand c'est une question d'échanger du pollen entre individus d'une même espèce, c'est une bonne idée d'avoir cette espèce de floraison massive et qui coïncide aussi, ou qui idéalement qui devrait coïncider avec l'éclosion des insectes et la disponibilité des insectes pour faciliter cette pollinisation.
Et est-ce que la couleur des fleurs peut constituer un élément de cette forme d'opportunisme entre guillemets?
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est les fleurs ont un arsenal de techniques et d'astuces pour communiquer avec les pollinisateurs, et la couleur joue un grand rôle. Alors, ça joue un grand rôle surtout parce qu'en fait, la couleur, ça a été plus facile pour les êtres humains à étudier. Donc, c'est une des armes de séduction des fleurs qu'on comprend assez bien. Il reste beaucoup de choses à comprendre, mais c'est vraiment une des choses qu'on connaît bien. Alors, par exemple, simplement parce que certaines couleurs sont bien plus visibles aux insectes, donc ça rend les fleurs très visibles.
Et lesquelles,
si la fleur a... Alors ça dépend des insectes évidemment, hein, mais les couleurs dans la partie du spectre bleu, ce sont des couleurs bleues jusqu'à UV, donc la couleur ultraviolette, ce sont des couleurs que beaucoup d'insectes perçoivent très bien, et ça rend les fleurs très visibles.
François Parcy, donc les armes de séduction massive, hein, vous le disiez aussi dans votre livre, ça.
Ah oui, parce que voilà, pour se reproduire, hein, il faut être reconnu, il faut plaire en gros, hein, et il faut récompenser. Donc on a le nectar d'un côté qui récompense, et puis il faut être reconnu. Et pour être reconnu, bah, les couleurs, les formes, c'est une façon, mais on pourrait aussi parler du parfum, par exemple, qui est une des façons d'être reconnu à distance et de nuit, et qui est très utilisée par les plantes à fleurs.
Merci pour la transition, car justement, je voulais que nous écoutions un extrait du film de ce soir consacré à la plante qui probablement sent le plus mauvais au monde, Arôme Titan. On écoute ça, c'est avec la conservatrice du jardin botanique de Bonn, Cornelia Lönn.
La floraison a commencé cet après-midi. Il est maintenant complètement ouvert. Et on peut déjà commencer à sentir les premières odeurs. Tout au long de sa période de floraison, elle dégage toute une gamme d'odeurs différentes. Au départ, ça sent le chou bouilli, puis ça se transforme en une odeur d'ail, de transpiration, de fromage... Et enfin, comment dire, de poisson. Le parfum se compose d'une variété de différentes substances chimiques. Certains d'entre eux ont même des noms amusants, tels que la cadavérine.
Voilà, Cornelia Lönn est juste avant Sarah Darwin, l'arrière-petite-fille de Darwin. Donc vraiment, ça pue, hein, cette fleur, François Parcy.
À ces fleurs, ça pue. Ouais. Et voilà, c'est des insectes qui aiment cette odeur-là. Et donc, la séduction, elle n'est pas nécessairement basée sur des parfums agréables à l'homme. Le principal,
oui, c'est
que ça soit attirant pour l'insecte. C'est
mais il y a des gens qui font la queue. Moi, je me souviens l'année dernière, je crois que c'était au Royaume-Uni, justement, Edwige Moiroux. Il y avait, parce que je crois qu'elle a une floraison une fois tous les, je sais plus combien d'ailleurs.
Oui, tous les, exactement.
Et il y avait les gens qui faisaient la queue pour pouvoir voir et donc respirer
combien la floraison
de titans qu'on surnomme.
Ça dépend, mais peut-être en moyenne tous les 40 ans.
Ah oui.
40 ans.
Donc on peut pas la louper.
Ah, c'est vrai que c'est fascinant. On a eu deux floraisons au jardin botanique à Cambridge et à chaque fois on avait des queues jusqu'au centre-ville.
Donc voilà. Et ça sentait loin ou pas justement?
Ça attire pas que les insectes.
Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura encore quelques minutes pour des questions. Ce sera juste après. Rendez-nous la lumière, Dominique A, sur France Inter.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous. Et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Rendez-nous la lumière. Dominique A et Thierry Dupin, bien sûr, qu'on salue et qui signe la programmation musicale de la Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
Edwige Moiroux en duplex de Cambridge et François Parsi à Paris pour nous parler donc des fleurs. Ce sera ce soir sur France 5. Camille, on regardait les photos là, hein, pendant qu'on écoutait Dominique A.
La photo donc de l'autre fleur qui pue, hein, on peut le dire comme ça, après l'arôme titan. François Parsi, donc c'est une fleur à Sumatra qui est là.
La rafflésie. C'est un autre exemple, c'est la même la plus grosse fleur qui existe au monde. Elle peut faire un mètre de diamètre et c'est une vraie fleur pour le coup.
Parce elle a vraiment une tête de fleur.
Elle a vraiment une tête de fleur. Elle n'a pas de feuilles, pourtant elle n'a qu'une fleur en fait, parce que c'est une plante parasite, donc elle se nourrit sur les racines d'autres plantes. Et à l'inverse de l'arôme titan, qui est une inflorescence en fait, c'est une tige avec plein de fleurs collées. Ouais. La rafflésie, c'est une fleur unique et elle aussi, elle attire les insectes avec des odeurs absolument abominables.
Voilà, et on vient de loin toujours pour voir ces fleurs. Regardez sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir à quoi ça ressemble. Edwige Moiroux, sur les parfums, même chose. Donc, il y a des parfums pour l'homme, évidemment, qui sentent pas bon. Vous les étudiez aussi pour voir quels sont les parfums qui attirent tel ou tel insecte?
Alors, on commence juste à regarder la partie parfumée, la partie senteur. En fait, pour l'instant, c'est surtout intéressé au côté visuel, mais ces deux types d'armes, en fait, fonctionnent ensemble.
J'ai une question tout à fait naïve, mais est-ce que quand on porte du parfum, ça veut dire qu'on attire plus les insectes ?
En tout cas, c'est sûr qu'ils le détectent. On travaille beaucoup avec les abeilles et c'est vrai que si on met du parfum le jour où on fait des expériences avec les abeilles, elles sont pas forcément contentes.
Ouais. François Parcy, justement là-dessus.
Moi, je travaille pas avec les insectes, donc je peux être soit parfumé, soit transpirant. Ça ne gêne personne.
Ouais. Du point de vue de la génétique, alors, qu'est-ce que vous essayez de comprendre sur les fleurs? Parce que, avec votre équipe, vous avez réussi, justement, à mieux comprendre le mécanisme de la forme, c'est ça, des fleurs?
Ouais, tout à fait.
Ça, c'était quelque chose qui était hyper compliqué à bien comprendre, à bien analyser?
Nous, en fait, on cherche à comprendre comment se forme le bourgeon floral, c'est-à-dire au tout début, quand la fleur est encore toute jeune, qu'elle n'a pas encore ses pétales, etc.
Ouais.
Comment se fait cette mise en place de la fleur et ce qu'on appelle la compartimentation, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place les couronnes d'organes et donc on doit marquer le terrain.
Donc là, vous allez dans les gènes, là, vraiment.
Et là, on va dans les gènes, vraiment. Et en fait, nous, on a une double approche. On étudie des plantes qui existent aujourd'hui, évidemment. Hein, on travaille dessus, on comprend au niveau moléculaire. Et à chaque fois qu'on comprend quelque chose, on se demande, mais alors ça, quand est-ce que ça a été créé? Et donc, on regarde chez d'autres plantes et petit à petit, en étudiant la famille des plantes, on arrive à deviner quand est-ce que ce mécanisme est apparu. Et on a eu des grandes surprises comme ça. Par exemple, une des protéines que j'étudie et que j'aime beaucoup, hein, que j'ai étudiée d'ailleurs avec Edwige Moiroux, qu'on appelle l'architecte floral, on a pensé à une époque, elle fait la fleur, donc elle a été inventée par les plantes en même temps que l'origine des fleurs. Et en fait, on s'est rendu compte en cherchant qu'elle existait chez les gymnospermes, chez les fougères, chez les mousses et même maintenant chez les algues. Ce qui veut dire qu'en fait, elle était là 500 millions d'années avant l'origine de la fleur. Mmh. Et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle fait là et quel était son rôle avant la fleur.
Donc vous essayez toujours d'aller plus loin finalement aussi dans toute cette histoire évolutive?
Oui, on essaie de retracer l'histoire évolutive à la fois des protéines et des fonctions des protéines.
Une petite question d'Alexandre sur franceinter.fr. Est-ce qu'il existe des fleurs sous l'eau, vraiment totalement immergées?
Alors évidemment, il existe des plantes aquatiques, ça c'est sûr, comme le nénuphar, mais les fleurs, elles sortent à la surface. Est-ce qu'il existe des fleurs qui passent tout leur cycle de vie sous l'eau? Ça, j'avoue que je l'ignore. Ça imposerait une pollinisation via le milieu aqueux, et je n'ai aucune idée si ça existe un cycle de vie entièrement sous l'eau.
Edwige Moiroux, vous avez une idée sur la question aussi ou pas?
Non, l'exemple le plus connu, c'est évidemment les fleurs nénuphar, hein, qui commencent, les boutons émergent sous l'eau, mais c'est vrai que les fleurs viennent à la surface, donc j'ai pas connaissance de fleurs qui s'ouvriraient complètement submergées.
Ouais. Quelle est votre fleur préférée quand on va terminer avec ça, Edwige Moiroux? Allez, si vous vouliez nous composer un bouquet avec vraiment ce que vous préférez, il y aurait quoi dedans?
Oh, c'est très très difficile. Je vais dire, je vais pas me
Allez, d'un point de vue personnel et d'un point de vue de l'intérêt scientifique.
Sur laquelle on travaille. Je suis biaisée, hein, évidemment, mais notre équipe travaille sur la fleur d'hibiscus.
Ah oui.
Pour essayer de comprendre justement comment ces fleurs développent des armes de séduction pour interagir avec les pollinisateurs, et c'est vraiment une fleur passionnante. Donc.
Et vous, François Parcy?
C'est une question difficile. Moi, j'aime les iris pour leur forme sensuelle et leur mélange de couleurs.
Ah oui.
Notamment les croisements qui se font, on voit les couleurs se mélanger. J'aime le genépi qui attire mon nez puis mon regard dans les parois d'escalade.
Ouais.
Et évidemment, Arabidopsis thaliana, qui est la plante sur laquelle je passe ma vie. Évidemment, je l'aime à force.
Mais elle ressemble à quoi? Parce que moi, ça ne me dit absolument rien.
Ah, c'est une petite brassicacée, c'est un petit colza.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà, c'est ça.
Bien sûr.
Voilà, colza. On s'en raccroche à ce mot. Voilà, des fleurs, vous en verrez très belles. Donc ce soir sur France 5, 21h, avec l'abominable mystère des fleurs. Et puis je renvoie également sur ce livre, l'histoire secrète des fleurs chez Humaine Science, que vous aviez publié il y a 3 ans, François Parcy. Merci également, Edwige Moiroux, from Cambridge. À bientôt.
Au revoir. Merci.
Bye bye.